Chapitre 4. Barbe Bois. Pendant ce temps, les hobbits marchaient aussi vite que le permettait la forêt sombre et enchevêtrée, le long de la rivière courante, vers l'ouest et les pentes montagneuses, toujours plus avant dans les bois de Fangorn. Leur crainte des orques s'apaisa peu à peu, et ils ralentirent le pas. Une étrange sensation d'étouffement les gagnait, comme si l'air était trop pauvre ou trop rare pour la respiration. Enfin, Merry s'arrêta.
« On ne peut pas continuer comme ça, » dit-il haletant. « J'ai besoin d'air. »«
Buvons au moins un peu, » dit Pipin. « Je meurs de soif. »
Il se hissa sur une grosse racine sinueuse qui descendait jusqu'à la rivière, et, mettant ses mains en coupe, il se pencha et puisa de l'eau. Elle était claire et froide, et il en but de nombreuses gorgées. Merry l'imita. L'eau les rafraîchit et parut leur verser du baume au cœur. Pendant un moment, ils s'assirent ensemble au bord du torrent, trempant leurs jambes et leurs pieds endoloris et promenant leurs regards sur les arbres silencieux qui les entouraient, rangée après rangée, jusqu'à se fondre en une pénombre grise dans toutes les directions.
« J'ose croire que tu ne nous as pas encore égarés, » dit Pipin en s'adossant contre un grand tronc. « On pourrait à tout le moins suivre le cours de cette rivière, l'Antévière ou je ne sais trop comment tu l'appelles, et ressortir par où nous sommes entrés. » « On pourrait, si nos jambes voulaient bien coopérer, » dit Merry, « et s'il y avait moyen de respirer convenablement. »«
Oui, tout est très sombre et étouffant ici, » dit Pipin. « Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle l'antique salle de la grande maison des Touques, loin par chez nous, dans les Simioles de Toquebourg. Une maison immense, où le mobilier n'a pas été déplacé ou changé depuis des générations. » On dit que le vieux Touque y a passé des années, tandis que lui et la pièce vieillissaient et se dégradaient ensemble. Et rien n'a jamais été changé depuis qu'il est mort il y a un siècle. Et le vieux Gérontius était mon arrière-arrière-grand-père. Ça nous ramène à loin. Mais c'est sans rapport avec la vieillesse qu'on sent dans ce bois. Regarde-moi ce lichen, toutes ces barbes pleureuses et ces moustaches traînantes. Et la plupart des arbres semblent à demi recouverts de feuilles déchiquetées et racornies qui ne sont jamais tombées. Ça fait désordre. Je ne vois pas du tout à quoi ressemblerait le printemps ici, à supposer qu'il y en ait un, encore moins un nettoyage de printemps.
Mais le soleil doit bien apparaître de temps en temps, dit Merry. Ça ne ressemble pas du tout à la description qu'a faite Bilbo de la forêt de Grand-Peur. C'était un sentiment tout différent. Un endroit ténébreux et noir, peuplé de créatures tout aussi noires. Ici, c'est tout au plus un demi-jour, quoique terriblement arbresque. On n'imagine pas que des animaux puissent vivre ici ou s'attarder longtemps.
« Ni des hobbits, » dit Pipin. « Et je n'aime pas l'idée d'essayer de la traverser non plus. Rien à manger pendant une centaine de milles, je gage. Que nous reste-t-il comme provision ?»«
Pas grand-chose, » dit Merry. Nous avons filé avec deux paquets de limbas dans nos poches. Tout le reste est demeuré derrière nous. »
Ils vérifièrent ce qu'il leur restait des gâteaux elfiques. Quelques morceaux, environ 5 jours d'une maigre pitance, pas plus.
« Et pas la moindre écharpe ou couverture, » dit Merry. « La nuit va être froide, où que nous allions. »
« Eh bien, on ferait mieux de décider tout de suite, »
dit Pipin.
« La matinée avance, mine de rien. »
C'est alors qu'ils remarquèrent une lumière jaune qui venait d'apparaître un peu plus loin dans les bois. Des rayons de soleil semblaient avoir soudain percé la voûte forestière.
« Tiens, tiens !» dit Merry. « Soleil doit avoir rencontré un nuage pendant que nous marchions sous les arbres, et maintenant, elle est ressortie, ou elle a grimpé assez haut pour regarder par une ouverture. Ce n'est pas loin, allons voir !»
Ils s'aperçurent que c'était plus loin qu'ils ne l'avaient cru. Le sol continuait de monter en pente raide, et il devenait de plus en plus rocailleux. La lumière grandit à mesure qu'ils avançaient, et bientôt, ils virent se dresser devant eux une paroi rocheuse, le flanc d'une colline ou la fin abrupte de quelques longues racines projetées par les lointaines montagnes. Aucun arbre ne poussait sur sa face de pierre, et le soleil tombait en plein sur elle. Les ramilles des arbres à sa base, raides et immobiles, étaient comme des doigts tendus vers la chaleur. Là où toute chose avait paru si grise et défraîchie dans l'instant d'avant, le bois se parait à présent de riches nuances de brun et d'un lisse gris-noir d'écorce semblable à du cuir lustré. Les fûts des arbres luisaient d'un vert tendre comme l'herbe nouvelle, le jeune printemps où la vision fugace de celui-ci les entourait. Dans la paroi rocheuse, elle-même se voyait comme un escalier, peut-être naturel, taillé par l'érosion et le délitement de la roche, car il était grossier et inégal. Très haut, presque au niveau de la cime des arbres, se trouvait une corniche sous un escarpement. Rien ne poussait là, hormis quelques herbes accrochées au bord et un vieux chicot d'arbre à qui il ne restait que deux branches courbées. On eût dit la silhouette d'un vieillard rabougri, debout sur l'éminence, plissant les yeux à la lumière du matin.
« Allons-y !» dit Mary d'un ton enjoué. « Vivement une bouffée d'air frais et un aperçu du pays !»
Ils gravirent l'escalier de roche en s'aidant des pieds et des mains. S'il avait été taillé par quelqu'un, c'était pour de plus gros pieds et de plus longues jambes que les leurs. Ils étaient trop pressés pour s'étonner de l'extraordinaire rapidité avec laquelle s'étaient guéris les coupures et les plaies subies au cours de leur captivité et de leur formidable regain de vitalité. Ils finirent par atteindre le rebord de la corniche, presque au pied du vieux chicot. D'un bond, ils y montèrent, et tournant le dos à la colline, ils étendirent leur regard sur l'est en prenant de grandes respirations. Ils virent qu'ils n'avaient pénétré que de 3 ou 4 milles à l'intérieur de la forêt. Les têtes des arbres descendaient vers la plaine en une marche ordonnée. Là, près de la lisière des bois, de hauts panaches de fumée noire s'élevaient en spirale et dérivaient lentement vers eux.
« Le vent tourne !» dit Mary. « Il est revenu à l'est. Il fait frais à cette hauteur. »«
Oui, » dit Pipin. « J'ai bien peur que ce ne soit qu'une éclaircie avant le retour de la grisaille. » « Quel dommage! Cette vieille forêt hirsute paraissait si différente à la lumière du soleil. J'avais presque l'impression d'aimer l'endroit. »«
Presque l'impression d'aimer la forêt? C'est bien! C'est incroyablement gentil à vous !» dit une voix étrange. « Tournez-vous et laissez-moi voir un peu votre figure. J'ai presque l'impression de ne pas vous aimer ni l'un ni l'autre, mais ne soyons point trop hâtifs. » « Tournez-vous !»
Une grande main aux doigts noueux se posa sur leurs épaules et les retourna, doucement mais irrésistiblement. Puis, deux longs bras les soulevèrent. Ils se trouvèrent nez à nez avec un visage des plus extraordinaires. Il appartenait à une grande forme rappelant un homme, voire un troll, d'au moins 14 pieds de haut, très robuste, surmonté d'une tête allongée sans véritable cou. Elle était vêtue d'une étoffe vert et gris, pareille à de l'écorce, laquelle pouvait tout aussi bien être sa peau, c'était difficile à dire. Les bras se trouvaient, en tout cas, très proches du tronc, et ils n'étaient pas plissés, mais recouverts d'un cuir brun et lisse. Les pieds, très grands, étaient chacun dotés de 7 orteils. La partie inférieure du visage était couverte d'une longue barbe grise, touffue, presque ligneuse à la racine, quoique fine et moussue aux extrémités. Mais pour lors, les hobbits ne voyaient pas grand-chose d'autre que les yeux. Ces yeux profonds les examinaient à présent, lents et graves, mais très pénétrants. Ils étaient marrons, teintés d'une lueur verte. Pipin devait souvent essayer par la suite de décrire la première impression qu'il avait ressentie en les voyant.
C'était comme s'il y avait au fond un puits énorme, rempli d'une mémoire séculaire, d'une lente et longue pensée soutenue. Mais le présent étincelait à la surface, comme un chatoiement de soleil sur les feuilles extérieures d'un grand arbre ou sur les rides d'un lac très profond. Je ne sais pas, mais c'était comme si un être qui aurait grandi dans le sol, endormi si on veut, ou qui n'aurait fait que se sentir du bout des racines jusqu'à la pointe des feuilles entre terre et ciel, venait soudain de s'éveiller et vous considérait avec toute la lenteur et l'attention qu'il avait appliquée à ses propres affaires intérieures pendant d'innombrables années.
« Om, om !»
murmura la voix, une voix profonde, comme un instrument de la famille des bois au registre très grave.
« Vraiment très curieux, pas tant de hâte, c'est ma devise. » Mais si je vous avais vu avant d'entendre vos voix, elles m'ont plu. Jolies petites voix que cela. Elles m'ont rappelé quelque chose que je n'arrive pas à placer. Si je vous avais vu avant de vous entendre, je vous aurais simplement piétiné, vous prenant pour de petits orques, avant de me rendre compte de mon erreur. Vous êtes très curieux, vraiment. Racine et Rami, très curieux.
Pipin, bien qu'encore abasourdi, n'était plus effrayé. Ses yeux le plaçaient dans une étrange expectative, mais ne lui inspiraient aucune peur.
« Voulez-vous, s'il vous plaît, » demanda-t-il, « nous dire qui vous êtes et ce que vous êtes ?»
Une expression étrange parut dans les yeux âgés, une sorte de méfiance. Les profonds puits étaient obturés.
« Rome, oui, » répondit la voix. « Eh bien, je suis un Ent, du moins c'est ainsi que l'on m'appelle. Oui, Ent. » C'est le mot. C'est moi, l'Ent, diriez-vous, à votre façon de parler. Fangorn est mon nom pour certains, d'autres disent Barbe-Bois. Barbe-Bois fera l'affaire.
Un Ent, dit Merry. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment vous appelez-vous vous-même? Quel est votre vrai nom?
Oula, répondit Barbe-Bois. « Ouh, voilà qui en dirait long, pas tant de hâte. Et c'est moi qui pose les questions. Vous êtes dans mon pays. Qui êtes-vous? Vous, c'est bien ce que je me demande. Je ne vous situe pas. Vous ne semblez pas rentrer dans les listes anciennes que j'ai apprises quand j'étais jeune. » Mais c'était il y a très très longtemps, et on a peut-être dressé de nouvelles listes. « Voyons, voyons voir. Comment c'était déjà ?»« Sachez la science des créatures vivantes. Comptez les quatre, les peuples libres, aînés de tous les enfants elfes, le nain fouisseur au séjour sombre, l'Ent né en terre, vieux comme les monts, l'homme mortel, maître des chevaux. » Castor rongeur, chevreuil sauteur, ours chasse-abeille, sanglier lutteur, le chien a faim, le lièvre a peur. L'aigle en son air, le bœuf au pré, faon le follet, faucon le vif, cygne est si blanc, serpent si froid. Oum, oum. Comment c'était? Rum tum, rum tum, rum titum. C'était une longue liste, mais de toute manière, vous ne semblez cadré nulle part.
Il semble qu'on nous ait toujours exclus des listes anciennes et des vieilles histoires, dit Merry. Pourtant, il y a bien longtemps que nous sommes là. Nous sommes des hobbits. Pourquoi ne pas ajouter un verre?
Dit Pipin.
Les hobbits, Mio, habitants des trous. Mettez-nous parmi les quatre, à côté des hommes, les grandes gens, et vous y êtes.
Pas mal, pas mal, dit Barbe-Bois. Ça irait. Ainsi, vous vivez dans des trous, hein? Voilà qui semble tout à fait logique. Mais qui vous appelle des hobbits? Ce nom n'a rien d'elfique à mes oreilles. Les elfes ont fait tous les vieux mots. Ce sont eux qui ont tout commencé.
Personne d'autre ne nous appelle ainsi. C'est le nom qu'on se donne nous-mêmes,
dit Pipin.
Allons, pas tant de hâte. Vous vous appelez vous-même ainsi? Mais vous ne devriez pas le clamer au premier venu, voyons. Vous finirez par divulguer vos propres noms véritables si vous ne faites pas attention.
Nous ne faisons pas attention à cela, dit Merry. En fait, je suis un Brandybuck, Meriadoc Brandybuck, quoique la plupart des gens m'appellent simplement Merry. Et je suis un Took, Peregrin Took, mais on m'appelle le plus souvent Pipin, ou même Pip.
Vous êtes vraiment des gens hâtifs à ce que je vois, dit Barbe-Bois. Votre confiance m'honore, mais vous ne devriez pas être trop franc trop vite. Il y a Ent et Ent, voyez-vous. Ou du moins, Il y a des Ents qui en sont et d'autres qui leur ressemblent, mais qui n'en sont pas, si je puis dire. Je vais vous appeler Merry et Pipin, si ça ne vous dérange pas. De bien jolis noms. Car je ne vais pas vous donner le mien, pas tout de suite en tout cas. »
Une expression étrange, mi-entendue, mi-amusée, parut dans ses yeux avec une étincelle verte.
« D'abord, cela prendrait du temps. Mon nom ne cesse de grandir et j'ai vécu très très longtemps. Ainsi, mon nom à moi est comme une histoire. Les noms véritables vous racontent l'histoire des choses auxquelles ils appartiennent dans ma langue, le vieil entique, diriez-vous. Un parler charmant. Seulement, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour dire quoi que ce soit en cette langue, car nous ne disons rien en cette langue qui ne vaille la peine d'être longuement dit et écouté. Mais dites-moi... »
Et les yeux se firent alors très brillants et très présents, devenant plus petits, presque tranchants.
« Que se passe-t-il? Qu'avez-vous à voir dans tout cela? Je puis voir et entendre, et flairer et sentir, bien des choses à partir de cette « Oh là 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 là, rumbakamanda lindor burume !» Excusez-moi. C'est une partie du nom que je lui donne. J'ignore quel est le mot dans les langues extérieures. Vous savez, cette chose où nous nous tenons et d'où je regarde par les beaux matins en pensant au soleil, à l'herbe par-delà le bois et aux chevaux et aux nuages et au déroulement du monde. Que se passe-t-il? Que fait Gandalf et ses Bourarum?
Il émit une sorte de grondement profond, comme un grand orgue discordant.
« Ces orques et le jeune Saruman à Isengard, j'aime recevoir des nouvelles, mais pas trop vite, hein ?»«
Il se passe énormément de choses, » dit Merry. « Et même si nous voulions faire vite, ce serait long à raconter. Mais vous nous avez dit de ne pas nous hâter. Devrions-nous nous confier si vite ?» Trouveriez-vous cela impoli si l'on vous demandait ce que vous comptez faire de nous et de quel côté vous êtes? Et connaissiez-vous Gandalf?
Oui, je le connais. Le seul magicien qui se soucie vraiment des arbres,
dit Barbe-Bois.
Vous savez qui il est?
Oui,
répondit Pipin d'un ton chagriné.
Nous le connaissions. C'était un grand ami à nous. Il était notre guide.
« Je puis donc répondre à vos autres questions, »
dit Barbe-Bois.
« Je ne vais rien faire de vous, pas si vous entendez vous faire quelque chose à vous sans votre consentement. Nous pourrions faire quelque chose à nous trois, mais je ne sais pas pour ce qui est d'être d'un côté ou de l'autre. Je suis ma propre route, mais la vôtre peut suivre la mienne pour un temps. Néanmoins, vous parlez de Maître Gandalf comme s'il figurait dans une histoire qui aurait pris fin.
Oui, c'est vrai,
dit Pipin avec tristesse.
L'histoire semble se poursuivre, mais je crains que Gandalf n'en fasse plus partie.
Ouh, allons donc,
dit Barbe-Bois.
Ouh, eh bien.
Il marqua une pause, observant longuement les hobbits.
« Oum, enfin, je ne sais pas quoi dire. Allons donc. »«
Si vous voulez en savoir davantage, » dit Merry, « nous allons tout vous raconter. Mais cela prendra du temps. Vous ne voudriez pas nous déposer? On pourrait s'asseoir ici tous les trois au soleil tant qu'il dure. Vous devez être fatigué de nous tenir en l'air. »«
Fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. » « Je ne me fatigue pas facilement, et je ne m'assieds pas. Je ne suis pas très... pliable. Mais voilà justement le soleil qui se cache. Quittons cette... Avez-vous dit comment vous l'appelez ?»«
Colline ?»
proposa Pipin.
« Corniche ? Marche ?»
suggéra Merry. Barbe-Bois répéta pensivement ces mots.
« Colline, Oui, c'était ça. Mais c'est un mot hâtif pour une chose qui s'est trouvée ici depuis le façonnement de cette partie du monde. Peu importe, quittons-la et partons.
Où irons-nous ? Demanda Mary.
Chez moi, du moins, c'est l'une de mes résidences, répondit Barbe-Bois.
Est-ce loin ?
Je ne sais pas. Peut-être diriez-vous que c'est loin, mais quelle importance !
Eh bien, voyez-vous, nous avons perdu toutes nos affaires, dit Mary. Il nous reste très peu de nourriture.
Inutile de vous inquiéter de cela, dit Barbe-Bois. Je puis vous donner une boisson qui vous vaudra une verte croissance pour un long, long moment. Et si nous décidons de nous séparer, je puis vous déposer hors de mon pays en quelque lieu qu'il vous plaira. Partons.